Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et pour débuter, on accueille donc le patron de la CNCGP, Julien Serracchi. Bonjour Julien.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous de Cœur de patrimoine, au rendez-vous aussi de ce baromètre que vous publiez maintenant depuis plusieurs fois et qui permet vraiment de prendre le pouls de cette profession que la CNCGP notamment représente, celle des conseillers en gestion de patrimoine. Alors le nombre d'adhérents a considérablement augmenté ces dernières années. Quels sont les facteurs finalement qui expliquent cette croissance et comment l'organisme que vous représentez, Julien, prend par la main, j'imagine, un peu, accompagne ces petits nouveaux?
Effectivement, on a une croissance très forte. Là, on atteint les 4500 personnes physiques et les 2500 cabinets. Je me souviens, il y a quelques années, quand j'ai commencé ma présidence, les chiffres, c'était plutôt 1800 en cabinet, quelque chose comme ça, et puis 2500, 3000 personnes physiques. Donc oui, il y a une croissance très forte. Elle s'explique par deux raisons. D'abord, avec la réforme du courtage, on a accueilli des courtiers qui nous ont rejoints. Donc ça, c'est à peu près aujourd'hui 15 à 20% de nos effectifs, mais c'est pas ça qui explique la croissance très très forte. Finalement, c'est que c'est une croissance de marché, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de CGP qui s'installent, qui viennent des banques, des bandes privées ou d'autres réseaux, et qui viennent s'installer, créer leur cabinet et donc avoir leur propre société. Et ça marche très très fort. On va parler du baromètre. Le baromètre, il est fait pour montrer que la profession est en pleine croissance. On va citer plein de chiffres, mais des chiffres très intéressants et très impactants qui intéressent vraiment tout le monde. Et c'est ça, en fait, c'est qu'il y a une croissance endogène du marché.
Alors, vous avez dit un petit mot rapide et on va pas se réétendre sur cette réforme du courtage, mais malgré tout, c'était, j'ai envie de dire, un peu une nouvelle race entre guillemets d'adhérents qui a fait son arrivée avec cette réforme là. Est-ce que il y a eu des changements qui ont été apportés par cette réforme et puis par l'arrivée de ces gens là entre guillemets dans votre secteur?
Alors, il n'y a pas une réforme de l'association en tant que telle. Alors, on a eu l'agrément de la CPR parce qu'il fallait l'avoir, bien entendu, mais on n'a vraiment pris que des courtiers en assurance ou en IOB qui faisaient déjà notre métier.
D'accord.
C'est-à-dire qui faisaient de la vie.
Donc, vous avez déjà été très sélectif.
On a été très, très sélectif. On a refusé plus de 8000, j'ai arrêté de compter à 8000, mais on a refusé 8000 candidatures. Parce qu'évidemment, dès qu'on parle de courtier en assurance, on parle beaucoup d'assurance dommage. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on fait, l'assurance dommage. Et donc, on a sélectionné à l'entrée pour avoir des courtiers qui nous ressemblent. C'est pour ça que ça n'a pas du tout changé l'ADN de l'association. Mais évidemment, il fallait leur assurer des services propres, une responsabilité civile propre. Et donc, on a adapté à la marge ces questions-là.
Alors, on rentre un petit peu dans le dur. C'est quoi le profil type de l'adhérent de la CNCGP?
Il a 48 ans et quand il rentre chez nous, il a 42 ans. Le nouvel admis, il a 42 ans et le dirigeant moyen, il a 48 ans. On a de plus en plus de femmes. Moi, j'aime beaucoup mettre ça en avant. Là, on a atteint pour la première fois, parmi les dirigeants, 20% de femmes. Alors, je dis parmi les dirigeants parce que parmi les équipes salariées, ça fait longtemps qu'on est à 50-50 entre hommes et femmes, et c'est un ratio qui ne bouge pas. Mais évidemment, quand on se concentre sur les dirigeants, c'est pour se concentrer sur les dirigeantes et de montrer qu'il y a plus en plus de femmes qui créent leur cabinet, et ça, on le voit massivement à l'admission.
Et alors, comment on fait pour encourager j'essaye d'avoir, c'est pas toujours le cas, mais dans les émissions de nombreuses expertes, comment on fait pour encourager justement certaines peut-être à monter et à prendre des responsabilités dans les états-majors, entre guillemets, sur les différentes strates de la CNCGP?
Alors déjà, elles n'ont pas besoin de nous pour le faire, parce qu'elles sont évidemment aussi compétentes que les hommes. Mais surtout, moi, ce que j'essaye de faire, c'est dans mon conseil d'administration, d'avoir beaucoup plus de femmes administratrices qu'il n'y en a en proportion dans le métier, pour montrer que les femmes arrivent à ces postes de responsabilité-là, et évidemment qu'elles sont aussi performantes que les hommes, voire plus. Mais je le répète, elles n'ont vraiment pas besoin de nous, de toute façon, pour y accéder.
Alors, on continue un petit peu à parcourir ce baromètre parce que c'est assez intéressant de voir un petit peu tous les chiffres qu'on trouve et qui nous permettent de prendre le pouls de cette profession, et notamment le chiffre d'affaires moyen des adhérents. Alors, je parlais du nombre d'adhérents, mais leur chiffre d'affaires moyen est également en progression, les encours gérés aussi. Quelles sont les principales sources de croissance de ce monde du conseil en gestion de patrimoine?
Ça, c'est intéressant parce qu'on est encore dans une phase, nous, les CGP, où on a une forte croissance de nos parts de marché, mais en même temps, on ne se marche pas encore sur les pieds puisque cette part de marché, elle n'est pas suffisante pour qu'on soit en concurrence les uns avec les autres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend des parts de marché au réseau bancaire ou au réseau assis, j'appelle ça comme ça, des banques ou des compagnies d'assurance, parce qu'il y a toute une partie de notre cœur de cible qui est ce qu'on appelle la clientèle patrimoniale. Ça commence avec quelques dizaines de milliers d'euros d'encours jusqu'à quelques millions. En dessous, c'est le mass market et au-dessus, on va dire que c'est la clientèle des banques privées, même si beaucoup de CGP ont des clients de type banque privée. Et sur cette clientèle patrimoniale-là, en fait, on est en train de récupérer tout ce qu'il y a dans les autres réseaux et les réseaux bancaires dont j'ai parlé. Donc c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est une croissance endogène, c'est-à-dire qu'on a juste besoin de bien faire notre métier, d'être disponible pour acquérir des clients simplement
par ça. Et il n'y a pas d'autres défis, entre guillemets, à relever pour, on va dire, conserver cette croissance, parce que il y a un moment, ça pourrait finir par se tasser une fois que vous aurez, si je vous suis, siphonné les réseaux assis.
Bah, les défis ne se posent pas encore du point de vue de l'industrie elle-même. Ils se posent évidemment pour chaque cabinet, de dire comment je vais me développer, comment je vais avoir plus de clients, comment je vais avoir un meilleur service. Ça, oui, chaque CGP se pose la question dans son cabinet. Mais en termes d'industrie, on n'en est pas là, parce que dans la courbe de croissance de l'industrie, on n'est pas du tout encore arrivé à maturité. On a encore tellement de parts de marché à aller chercher que cette question-là, on se la posera, à mon avis, post-2030. Voire oui. post-2035. Moi, je dis, la décennie 2020-2030, c'est l'âge d'or des CGP. C'est le moment où on prend des parts de marché très facilement, sans être en concurrence les uns avec les autres. Donc, il y a une réflexion qu'on mène au niveau de l'industrie elle-même sur qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans ou dans 10 ans, mais c'est quand même encore assez loin. Mais évidemment, chaque cabinet se pose la question, notamment sur les questions numériques, de digitalisation, de cybersécurité. On en a eu la preuve il n'y a pas si longtemps, de qu'est-ce qu'on fait dans son cabinet pour mettre tout ça en œuvre.
Un petit mot aussi de la répartition géographique, parce que c'est pas, je vais enfoncer une porte ouverte, hein. Il y a les grandes métropoles, il y a Paris, il y a les grandes métropoles, et puis après, il y a le reste du pays. Est-ce que c'est le cas aussi? Est-ce que les cabinets de CGP sont majoritairement, on va dire, en Ile-de-France, dans les grandes métropoles, et puis que quand on s'en éloigne, c'est plus compliqué de trouver son CGP?
Alors, évidemment, Paris représente un tiers des cabinets, mais ça, c'est un grand classique dans beaucoup d'industries. Après, vous avez l'axe Lyon-Marseille. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, Bordeaux, par exemple, est passé devant Marseille. Vous voyez, la région Aquitaine est passée devant la région PACA en nombre de cabinets. Et surtout, on a fait un petit calcul. On s'est dit, mais finalement, un Français, il est à quelle distance, où qu'il soit en France, d'un cabinet de gestion de patrimoine? Et ben, vous êtes à 15 kilomètres au plus loin d'un cabinet de gestion de patrimoine, parce qu'il y en a aujourd'hui absolument partout en France, même dans des zones moins denses en termes de population.
Vous avez chez personne, mais dans la Creuse, c'est facile de trouver un CGP?
Ben, et dans la Creuse, c'est facile de se déplacer et de trouver un CGP.
Ne m'en voulez pas pour les représentants de la Creuse, c'est un peu le cliché, hélas. Et du coup, un organisme comme la SNCGP, il a tendance à, pas à chouchouter, mais à prendre un peu plus soin d'un cabinet qui est peut-être plus isolé, pour qui reste, par exemple, ou qui se développe aussi bien que celui qui est à Bordeaux, à Rennes, à Nantes, à Lyon.
Et évidemment, on peut dire, celui à Paris, il n'a pas besoin de nous pour rencontrer les assets, pour rencontrer les assureurs. Ils sont tous à Paris. En revanche, dès que vous êtes en province, et encore plus si vous n'êtes pas dans un des grands pôles, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, vous avez évidemment besoin de la SNCGP pour le faire, parce que nous, on le fait via toutes les formations qu'on fait en France. On a plus de 60 événements en France pour des formations. Et lors de ces 60 événements, on fait venir des partenaires, des assets et des assureurs pour qu'ils puissent rencontrer évidemment des CGP qui sont plus isolés. Donc on a une réflexion vraiment autour des régions pour animer le réseau des régions, et puis pour parce qu'on a bien conscience qu'il y a une utilité sociale à notre métier, et qu'effectivement le CGP qui est, alors, tu citais l'exemple de la Creuse, mais ou d'une autre région moins densément peuplée, il va faire beaucoup de choses en fait pour son client, parce que ça va être son homme de confiance, et donc ce CGP là il faut le chouchouter évidemment, et il faut lui apporter le plus de services possible.
Alors vous avez rappelé l'importance de tout ce qui est contact donc avec l'organisation, etc., et notamment le pilier formation. Qu'est-ce que vous avez fait récemment qui a marqué plus particulièrement, on va dire, cette nécessité, parce que c'est une nécessité réglementaire, hein, de se former pour un CGP, d'être à la page?
Ce qu'on fait, donc, c'est ces 60 événements dont j'ai parlé. Et puis, surtout, on fait ce qu'on appelle des universitaires. Alors, on réunit plusieurs régions et on va se réunir à 150, 200 CGP. Alors, d'une même région ou pas. Avant, on le faisait pas région, mais maintenant, les gens traversent la France. Finalement, ils sont dans le Nord. Ils disent, tiens, il y a une université à Bordeaux. Ça va être sympa. Je vais faire ma formation. Et puis, derrière les 2 jours de formation, je vais rester à Bordeaux, 1 ou 2 jours, parce que c'est le week-end et je vais en profiter en famille. Et ça, ce format d'université, il a énormément de succès. Il dure 2 jours. Et on en est à 6 universités. On va passer à 7 et bientôt à 8 parce qu'on a tellement de demandes qu'on est obligé de multiplier ce format qui plaît beaucoup à nos adhérents, puisque une fois qu'ils ont fait une université 2 jours et puis 3 jours de réunion régionale, ça c'est 3 événements d'une journée, ils ont fait toute leur formation pour l'année.
Ah oui. Un petit mot aussi de la digitalisation. Vous êtes passé tout à l'heure un petit peu dessus et c'est vrai que c'est un aspect important du métier. On en a beaucoup parlé évidemment au moment de la crise Covid, etc. Et j'imagine que c'est un rôle aussi essentiel d'une organisation comme la CNCGP que d'accompagner finalement ses membres et puis de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire la transition, avoir les agrégateurs de comptes, les services d'analyse de fonds. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui se cachent derrière de réalité, qui se cachent derrière le mot digital.
Vous avez cité le Covid, et je crois que le Covid a été un accélérateur fabuleux de la digitalisation. Et donc, on n'en est plus dans la réflexion de la digitalisation. Ça, c'est déjà le passé. Là, aujourd'hui, on a 2 réflexions en tête qui sont comment utiliser l'intelligence artificielle. On a sorti
un guide notamment,
voilà, sur ce sujet. C'est comment est-ce qu'on applique dans son cabinet l'intelligence artificielle et comment on l'utilise. Donc ça, c'est vraiment un grand point d'interrogation. Et puis, à partir du moment où on s'est numérisé, où on s'est digitalisé, où beaucoup de cabinets n'ont plus de papier, c'est... La question de la cybersécurité, c'est-à-dire comment est-ce que derrière, quand on collecte toutes ces datas, toutes ces données, comment est-ce qu'on les sécurise? Et ça, c'est la réflexion qu'on est en train de mener aujourd'hui, c'est-à-dire comment un cabinet doit pouvoir sécuriser les données de ses clients.
Alors, si vous voulez reprendre tout ça, vous pouvez notamment vous référer au podcast, hein, puisqu'on avait reçu Sandrine Genet et Vincent Courroyer qui étaient venus présenter ce guide. Et vous saurez tout sur le guide de l'IA pour le CGP.
Juste une chose, Cédric, c'est que c'est vraiment un sujet difficile, le sujet de la cybersécurité, parce que c'est un sujet qui est au croisement, évidemment, de compétences techniques. Nous, les CGP, on n'est pas des professionnels de la cybersécurité. Donc, au croisement de ces connaissances techniques-là et au croisement de la réglementation aussi, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout faire. Il y a des lois et des obligations à respecter. Donc, c'est vraiment un sujet qui est très complexe, qui nous demande beaucoup de réflexion en ce moment. Et on ne va pas sortir de notre chapeau, évidemment, des solutions faciles comme sauvegarder vos données. Si c'était que ça, ça serait évidemment trop facile et tout le monde pourrait le faire. Non, c'est qu'on est en train de travailler vraiment à réfléchir sur comment un cabinet doit s'organiser en matière de cybersécurité.
Ouais. Et on a vu dans l'histoire récente, avec certains fournisseurs, qu'effectivement, il pouvait y avoir quelques questions. Juste 2 petites questions pour terminer. Une sur le reste de la profession, j'ai envie de dire, parce que le CGP, moi, je le vends souvent comme ça, c'est un peu comme le médecin de famille qui va vous ausculter, tout bien connaître de chez vous et qui, quand il aura, entre guillemets, une difficulté ou un besoin, se tournera vers un autre professionnel et travailler vraiment en interprofessionnalité pour le plus grand bien de son client. Comment est-ce qu'on travaille justement? Comment est-ce que lorsqu'on préside la CNCGP, on règle un petit peu le pas sur le reste de la profession?
Voilà. Alors, le reste de la profession, c'est, on est tous des CGP, donc on fait tous...
Mais on peut penser aux notaires, aux experts comptables, aux avocats...
Évidemment, vous avez employé le terme de médecin du portefeuille, ou un terme en tout cas en rapport avec le médecin. C'est aussi le chef d'orchestre qu'on utilise beaucoup. Et donc, évidemment, toutes les questions autour de l'interprofessionnalité se posent. Tous les CGP, je pense, travaillent par exemple avec des experts comptables qui leur apportent leurs clients. Et évidemment, le CGP dessus va appliquer ses connaissances, notamment sur tous les dispositifs d'épargne retraite, par exemple, ou d'épargne salariale. Les CGP sont très actifs, évidemment, sur les ventes immobilières avec le notaire aussi, évidemment, sur tous les sujets qui touchent les avocats, les créations de SCI, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment un rôle de chef d'orchestre. J'ai essayé de développer des relations institutionnelles avec les ordres de ces métiers. C'est très compliqué, je ne vous le cache pas, parce qu'ils ne sont pas organisés comme nous. Là-bas, ils sont vraiment organisés par région. Et donc, il faut vraiment aller voir chaque président de région... de l'ordre d'un tel ou d'un tel. Donc, c'est vraiment très lourd à mettre en œuvre. Et on essaye, on progresse peu à peu. Et ça va prendre du temps. Et comme toujours à la CNCGP, je pense que celui ou celle qui va me succéder dans quelques temps va essayer de bâtir sur les fondations qu'on aura laissées.
Allez-vous me lancer là-dessus, puisque ce sera ma dernière question. Vous terminez votre mission en tant que président de la CNCGP. Content, pas content, et puis derrière, un peu de prospective, quelle vision vous avez maintenant, vous, pour après avoir occupé ce rôle pendant ces quelques années, quelle vision vous avez pour l'avenir de la profession, pour les évolutions réglementaires, technologiques, économiques, enfin, le testament, entre guillemets, professionnel, genre, enfin non, présidentiel de Julien Serracchi.
C'est sûr que c'est une position déjà qui est extraordinaire. parce qu'on fait son métier, on continue à faire son métier. Moi, tous les jours, j'étais
dans le cabinet de CGP. Oui, parce qu'en vrai, vous avez quand même un cabinet aussi.
Ah oui, tourner, dans mon cabinet de CGP. Mais il faut. Il faut pour bien avoir conscience de c'est quoi la réalité d'un CGP. Donc, il faut surtout pas se couper de ses clients et ne faire que gérer l'association et en être le président. Donc, c'est vrai que c'est une fonction absolument extraordinaire parce qu'on continue à faire son métier tout en ayant une réflexion très profonde, tout en faisant du lobbying, tout en défendant les intérêts de ses adhérents. Et donc, vous devez vraiment discuter absolument tout l'écosystème, que ce soit des partenaires, que ce soit des tutelles, que ce soit des politiques français ou européens. Et ça, c'est absolument passionnant intellectuellement. Il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que c'est une passion intellectuelle avant tout d'être président de la Chambre. C'est certainement pas pour sa propre gloire ou pour bénéficier de je ne sais quel avantage, c'est absolument pas le cas.
On le paye de se faire ennuyer par Cédric Decoeur régulièrement.
Non, c'est un plaisir. Mais évidemment, derrière, on a une réflexion sur la profession qui est haute, parce qu'on n'a pas le nez dans le guidon, parce que on est en hauteur. Et donc, ce que je vois pour les CGP dans les 5-10 prochaines années, le grand défi, à mon avis, ça va être de dire « Ok, très bien, on croit beaucoup. » Ça veut dire qu'on devient des entreprises de plus en plus importantes. Ça veut dire qu'on recrute de plus en plus. Donc, il y a toutes ces réflexions de chef d'entreprise à mener, qu'avant, on ne menait pas forcément. Et aujourd'hui, on voit qu'on a des grands groupes de CGP qui ont plusieurs centaines de CGP salariés. Donc, il y a d'abord cette dimension. On est avant tout un chef d'entreprise. Et il y a ensuite le grand challenge qui va être comment je garde l'intuitu personnel avec mon client. Comment cette grande force du CGP, c'est-à-dire son contact très proche avec son client, on va le garder vu que nos structures deviennent de plus en plus grandes. Et je pense que le vrai challenge, il est là. On n'a pas de réponse aujourd'hui. Tant que ce sont des CGP qui sont à la manœuvre, j'ai aucun doute que ça se passera très bien. Dans 10 ans, 15 ans, quand ces CGP-là vont partir à la retraite, qu'est-ce qui va se passer pour l'intuitu personnel? C'est là qu'est la question et c'est là qu'est le challenge.
Merci Julien.
Merci Cédric.
Julien Serraki, donc le président de la CNCGP. On se retrouvera au Midsommar dans quelques semaines et on verra qui, celle ou celui qui vous succédera. En tout cas, je serais ravi de vous y recroiser.
Le 12 juin, Midsommar, Maison de la Chimie et Musée Rodin. Ça va être extraordinaire comme les deux précédentes éditions.
Et bien évidemment, Radio Patrimoine y sera.
Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.